Mes chers amis, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis présent au milieu d'eux. C'est la grâce qui nous est faite ce matin encore. L'Éternel présent au milieu de nous. Présent en ce dimanche où nous nous réunissons pour rendre grâce pour la vie que nous recevons, pour entendre une parole qui nous aide à nous tenir debout et à faire quelque chose de notre vie. Ce culte sera légèrement raccourci, de manière à ce que nous ayons le temps ensuite de pouvoir tenir notre assemblée de 7 heures. C'est le moment chaque année pour nous de faire un point sur nos activités, de mieux comprendre le fonctionnement de notre Église pour ce qui concerne le thème que nous avons retenu cette année, et de pouvoir nous projeter, de pouvoir penser de quelle manière faire communauté ensemble. Et bien la première manière de faire communauté, c'est de chanter les psaumes. Au psaume 118, nous allons chanter la première strophe. Si vous prenez votre recueil de chants et que vous feuilletez l'ensemble des psaumes, vous verrez que tous commencent par une note qui est une blanche. La blanche dure deux fois plus longtemps que la noire. C'est ce qui nous permet de pouvoir nous rassembler sur la même note. Ceux qui sont un peu pressés sont obligés d'attendre ceux qui sont un peu moins pressés. Levons-nous pour chanter la première strophe du psaume 118. Pourquoi ta présence m'est-elle invisible? Certes, tu habites une lumière inaccessible. Mais où est-elle, cette lumière inaccessible? Qui donc m'y conduira? Qui donc m'y introduira pour que je t'y voie? Et puis, à quels indices, à quelles traces, à quels signes, sous quel trait le chercher? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu. Je ne connais pas ton visage. Alors, que peut faire ton serviteur tourmenté de ton amour? J'aspire à te voir. Et ta face est trop éloignée de moi. Je désire t'aborder et ta demeure est inabordable. Je souhaite te trouver et je ne sais où tu es. J'aspire à te chercher et j'ignore ton visage. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon maître, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as créé et recréé, ressuscité. Tu m'as pourvu de tous mes biens. Et la vérité est que je ne te connais pas encore. J'ai été créé pour te voir, et je n'ai pas encore réalisé ce pourquoi j'ai été créé. Alors de grâce, enseigne-moi à te chercher. Car je ne puis te chercher si tu me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. En mon désir, puissais-je te chercher, et dans la recherche te désirer. Dans mon amour, puissais-je te trouver, et en te trouvant, t'aimer. Et maintenant, puissions-nous faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portée à sa plénitude en ouvrant la Bible et en lisant quelques mots qui ont été laissés à notre intention. Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter la deuxième strophe du psaume 118. Psaume 118, deuxième strophe. J'ai retenu ces versets 19 à 25. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Après ces paroles extrêmement importantes, je vous propose de chanter la quatrième strophe du psaume 118. Chers frères et sœurs, quel est le sens de notre présence ici? Non pas simplement ce matin, mais à chaque fois que nous nous réunissons d'une manière ou d'une autre, et que nous constituons cette communauté protestante, une partie de cette communauté chrétienne de Montpellier, une communauté qui change de visage semaine après semaine, qui change de personnalité. Quel est le sens de notre présence ensemble? Nous pouvons nous dire que la vie chrétienne consiste à faire église. Elle consiste à être cette communauté visible qui est l'une des composantes de notre agglomération, par exemple. Mais cela n'est pas tout à fait la tradition protestante réformée à laquelle nous appartenons. Dans ce passage de l'Épître aux Romains, nous comprenons bien que le problème de Paul n'est pas l'Église. Le problème, c'est le croyant. Le problème, c'est moi. C'est toi. Le problème n'est pas collectif. Le problème est individuel. Alors, pour être tout à fait honnête, il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont que quelques versets au milieu de toutes les lettres de Paul et de tout l'enseignement biblique. Il est question chez Paul, bien souvent, de la communauté. Mais en fait, la perspective de Paul et la perspective des rédacteurs bibliques est toujours le croyant. Le croyant aux prises avec la vie. Le croyant aux prises avec la question du sacré. Le croyant aux prises avec la grande question de Dieu. Dans la perspective de Paul, à travers ces mots que nous avons entendus, la vie chrétienne consiste à être personnellement renouvelée par ce que nous pouvons appeler l'action du Saint-Esprit. Et quand cela se passe, quand toute notre vie est inspirée par la volonté de Dieu, quand notre entendement, pour reprendre ce terme de la traduction, n'est pas parasité par la loi du péché, lorsque le moindre aspect de notre vie quotidienne prend le sens de l'Évangile et qu'il n'y a plus la moindre perturbation, que nous ne sommes plus à distance de nous-mêmes, alors nous pouvons considérer que le règne de Dieu advient. Le règne de Dieu advient lorsque ça se passe bien à l'intérieur de nous, pas nécessairement lorsque nous sommes tous ensemble. Dieu est là où on le fait entrer personnellement, pour reprendre une expression de Martin Buber. Dieu est présent à partir du moment où nous laissons notre vie s'orienter pleinement vers ce que la Bible nous révèle être une existence pleinement vivable. Cela est vrai en particulier lorsque deux ou trois se réunissent au nom du Seigneur. Là où deux ou trois se réunissent en ayant cette disposition intérieure, oui, il ne s'agit pas simplement d'être deux ou trois réunis au nom de Jean Calvin, d'être deux ou trois réunis au nom de l'appel du trésorier. Là où deux ou trois sont réunis avec cette tension intérieure vers le Seigneur est présent au milieu d'eux. Et c'est alors qu'il y a Église. Il n'y a pas Église au sens institutionnel du terme. Une Église avec une loi de type 1905, des statuts, une assemblée générale. Il y a Église au sens protestant de l'Église invisible. L'Église invisible, on pourrait dire par contraste que ce n'est pas l'Église qui saute aux yeux. Ce n'est pas l'Église qui a pignon sur la rue de Madeleine. C'est l'Église qui n'a pas un calendrier d'activité, qui n'a pas un budget, qui n'a pas de bâtiment à entretenir, qui n'a pas de salaire déroulant à verser à ses pasteurs. L'Église invisible, pour reprendre la réflexion du théologien Friedrich Schleiermacher, l'Église invisible, c'est la communion de toutes les personnes qui ont été régénérées. Toutes ces personnes qui ont fait ce travail intérieur pour se débarrasser de ce qui parasite notre vie. L'Église visible, elle, c'est celle-là, notamment. Nous sommes l'un des visages de l'Église visible. C'est l'ensemble des personnes qui ont entendu l'Évangile et qui déclarent appartenir à cette institution qu'on appelle l'Église. L'Église visible est donc constituée par nous tous, qui avons tant de peine à ne pas être pollués par des forces qui nous empêchent de bien faire, qui nous retiennent d'accomplir pleinement la justice de Dieu, des forces qui nous tirent à une essence opposée, ces forces dont parle l'apôtre Paul, qui font que, au bout du compte, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, et le mal que nous voudrions éviter, nous le faisons, je ne dis pas joyeusement, ni avec un allégresse, mais nous le faisons régulièrement. Certainement, nous aimerions que l'Église visible soit semblable à l'Église invisible. Et je pense que nous devons, chacun, chacune, ici même, dans les différents lieux de culte, en espérant bien que notre Église, celle à laquelle nous tenons, soit une Église de type invisible, qu'il n'y ait aucune tension entre les membres de la communauté. Aucun désaccord, aucun conflit, aucune rancœur. Toutefois, la distinction entre Église visible et Église invisible nous enseigne deux choses. La première, c'est que l'Église invisible est une affaire d'individus. Ça se passe entre chacun et Dieu directement, pour faire vite avec une formule religieuse. L'Église invisible n'est pas le résultat de la décision de personnes de s'associer et de faire communauté ensemble. On ne peut pas tracer la topographie de l'Église invisible. C'est d'ailleurs comme cela que commence ce qui était autrefois notre discipline et maintenant la constitution de notre Église. Nul ne peut définir l'Église de Dieu, qui est l'Église invisible. Ce qui nous enjoint à beaucoup d'unité, notamment lorsque nous sommes dans une situation où il s'agit d'accueillir ou non des personnes qui viennent à nous. Comme le dirait l'évêque de Rome, qui suis-je pour savoir qui appartient à l'Église invisible? Qui suis-je pour savoir qui peut communier? Ou non. L'Église invisible est l'ensemble des individus qui ont fait pleinement accueil à la vie selon Dieu. Ces personnes n'ont pas décidé de se réunir en groupe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une manière d'être, une disposition intérieure, un élan intérieur, une tension. Ce qu'elles ont en commun, c'est d'être des âmes. Elles ne sont pas simplement préoccupées par leur intérêt personnel. Elles sont tendues vers quelque chose
de plus unie à celle qu'elle m'aime. L'Église visible, en revanche, est une affaire de groupe. C'est nous, une fois plus. L'Église visible est un rassemblement effectif de personnes visibles qui forment une entité bien visible. Et vous voyez, cette tension entre individu et collectivité est une tension qui est irréductible. On ne pourra jamais superposer les deux. La deuxième chose que nous enseigne cette distinction entre l'Église visible et l'Église invisible, c'est que l'Église visible ne peut pas être un lieu uniformisé. Les personnes qui composent l'Église visible, et il suffit de vous tourner un peu la tête pour voir qui sont ces personnes, sont suffisamment différentes sur le plan du caractère, sur le plan de la sensibilité, sur le plan du chemin personnel qu'ils ont mené jusqu'ici, sur le plan des centres d'intérêt, de l'histoire, pour qu'il ne puisse y avoir ni uniformité, ni absence de tensions internes, dans la mesure où ce qui nous pollue individuellement vient s'ajouter à ce qui pollue les autres. Autrement dit, nous sommes dans un grand nuage de pollution. Vivre dans l'Église, ce n'est pas vivre dans un milieu purifié, c'est vivre dans un grand nuage de pollution. Si nous avons tous en commun quelque chose dans l'Église visible, je reprends finalement le terme de l'apôtre Paul, ce que nous avons en commun, c'est d'être pécheurs. Ce qui nous rassemble, c'est que nous nous reconnaissons comme pécheurs. Et du coup, les écarts entre ce que nous sommes appelés à vivre et ce que nous vivons effectivement s'ajoutent. Et il y a un énorme jeu. C'est comme une grande chaîne de notation en technologie. C'est énorme. Alors forcément, cela a une incidence sur la façon dont nous voyons l'Église visible. Cela explique pourquoi les théologiens protestants, en particulier à partir du XVIIIe siècle, ont toujours vu d'un bon œil qu'il y ait plusieurs églises, qu'il y ait une pluralité d'églises chrétiennes. Ils ont abandonné le fantasme qu'il ne devrait y avoir qu'une seule église sous laquelle tout le monde pourrait se reconnaître. La pluralité des églises n'est pas un problème en théologie protestante. Elle est plutôt au contraire la résultante de cette prise au sérieux que lorsque nous nous réunissons dans une église visible, nous avons des différences qui parfois sont tellement invivables qu'il vaut mieux vivre la communion en instituant cet écart, plutôt que de vouloir absolument le résorber de force, alors qu'en fait, ce n'est pas en se rapprochant les uns des autres que nous pouvons résorber l'écart, c'est en faisant ce travail de régénération intérieure que nous pouvons nous rapprocher les uns des autres. Et il vaut mieux faire ce travail intérieur dans un climat de confiance, dans un climat où nous nous sentons à notre place, plutôt que de nous soumettre à une volonté extérieure à laquelle nous n'adhérons pas, et de faire finalement de notre vie une vie d'hypocrisie. Si la réforme protestante a maintenu la distinction entre l'Église invisible et l'Église visible, c'est d'abord pour une raison très pratique, celle-là même. Je dirais que c'est une raison presque pastorale. À toutes les générations de chrétiens, le constat a été le même. La vie ecclésiale, être membre d'une église locale, c'est tout sauf être au paradis. Je ne dis pas que c'est l'enfer. Et des fois, ça y ressemble quand même. Il y a des tiraillements. Et toujours, toujours, des déceptions. Toujours. Alors, cette distinction entre Église invisible et Église visible nous permet de faire quelque chose de cette déception, qui sont inévitables. Et le théologien Dietrich Bonhoeffer, dans son ouvrage de la vie communautaire, est allé jusqu'à dire que c'est une grâce de Dieu d'être déçu de la communauté.
C'est une grâce de Dieu d'être déçu de la communauté. En effet, quand vient le moment où nous sommes déçus que la vie en paroisse ne soit que cela, qu'il y ait si peu de fraternité, qu'il y ait si peu de solidarité, si peu de miracles, si peu de souffle, si peu d'évangile peut-être, alors meurt l'Église fantasmée. Alors meurt l'idole que nous nous sommes construits. Alors sont crucifiées toutes les fausses divinités, ce qui nous permet du coup de pouvoir découvrir le réel, de pouvoir découvrir l'Église véritable et prendre conscience que c'est en nous que doit s'effectuer le travail de l'Esprit qui régénère personnellement les êtres et en fait des membres de l'Église invisible. Une Église invisible qui n'est jamais exactement l'Église visible. Et c'est pour cette raison que l'Église visible ne sera jamais infaillible, loin de là. Dans la mesure où la véritable Église est distincte de l'Église visible, le travail de l'Esprit établit également des communions par-delà les institutions humaines. Et c'est cela qui est étonnant. C'est que nous pouvons nous trouver en communion avec des personnes qui nous semblent très éloignées de notre Église visible. Et à contrario, nous pouvons nous trouver beaucoup plus proches de gens très éloignés en termes institutionnels que de gens qui sont à nos côtés, qui partagent les mêmes bancs que nous. Ou, pour le dire peut-être de façon plus classique, il nous arrive bien souvent d'être plus proche d'un catholique que d'un autre protestant. Cette distinction entre Église visible et Église invisible nous permet de ne pas chercher notre salut personnel au sein de l'Église visible. L'Église n'est pas le lieu du salut. L'Église visible sera toujours incapable de nous offrir le salut, parce que c'est en Dieu lui-même que nous trouverons notre salut. C'est Dieu lui-même qui métamorphosera notre être et nous permettra de nous libérer de ces forces parasitaires qui nous tiennent toujours éloignés d'une vie bonne. Et cela, nous pourrons le célébrer dans l'Église visible. Réjouissons-nous, car notre nom est inscrit dans les cieux. Amen.